RMC 100% route. Roue libre.
Florian Marlière.
Salut à tous, bienvenue sur 100% en route, la radio digitale RMC. Pendant les 3 semaines du Tour de France, maintenant c'est vous qui avez la parole dans Roue Libre, la libre antenne. Appelez-nous au 3216 touche 9 pour nous donner votre avis sur la course. On est ensemble jusque 19h pour débriefer cette belle 4e étape avec Tanguy Turgis, directeur sportif de la Groupama FDJ United.
Ça va ? Très bien, moi je suis très content. On a assisté, je trouve, à une masterclass de la Lidl Trek.
Ah, on va revenir, c'était une démonstration de force.
Très, très belle course.
Allez-y. Vincent Prévost, le créateur du podcast Le Coup Tordu, est également avec nous. Belle étape quand même, Vincent.
Ouais, et puis stratégiquement, il va y avoir plein de choses à dire, à débriefer. Moi, j'adore, c'est ce que je préfère.
Ludovic Duchesne, évidemment, est également avec nous. Et je le sens presque assagi, Ludovic, après une belle étape.
Très content. Voilà, ça marche. Je suis pas très content parce que j'aurais aimé que Vauclin fasse un peu mieux, même si ça paraissait mission impossible.
Messieurs, on a assisté à une masterclass de la Lidl Trek. On écoute tout de suite l'intégral tour.
Ouais, Kevin Vauclin, il est bien en train de se replacer sur la droite de la route, il va prendre le virage, c'est bien joué de la part de Kevin Vauclin, un petit peu large peut-être. Résultat, Mats Pedersen est passé et lance déjà le sprint. Mats Pedersen avec Kevin Vauclin dans sa roue, Quinn Simons est troisième, il part tout seul, il n'y a personne qui pourra battre Mats Pedersen, le champion du monde 2019 qui est déjà deux fois vainqueur sur les routes du Tour de France. Et 1 et 2 et 3-0 pour Mats Pedersen, vainqueur ici à Foix devant Quinn Simons qui lui aussi lève les bras puisqu'il est satisfait de la victoire de son collègue, partenaire d'équipe, la victoire de Lidl.
Tout simplement trop fort, les Lidl Trek aujourd'hui.
Tout simplement trop fort. Trois coureurs devant, l'équipe la mieux représentée devant. Puis Mats Pedersen, qui est le retour du Mats Pedersen qu'on connaît, qu'on n'a pas trop vu cette année.
Première victoire cette année, hein, il me semble.
Oui. Quand on voit le... Alors il y a du niveau aussi, mais quand on voit du coup son niveau de forme au Bouc de la Mayenne par exemple, avec le niveau qu'il avait au Bouc de la Mayenne, il ne pouvait pas faire ce qu'il vient de faire aujourd'hui. Donc là, ça fait plaisir de voir un super coureur comme lui revenir à ce niveau-là.
C'était le plus fort aujourd'hui, Vincent, ou c'est avant tout une victoire collective de la Lidl?
Ah, c'est une victoire collective, hein, même au championnat du Danemark, il y a 15 jours, il n'y était pas du tout, quoi.
Attends, t'as regardé le championnat du Danemark, Vincent?
Déjà sur le chrono, logiquement.
Ça, c'est du sérieux.
Du vrai Pedersen, il doit l'écraser, il le gagne pas.
Il faudra qu'on parle de ta vie quand même, ouais. Parce que le championnat. Regardez le championnat de Danemark, c'est bien.
Bravo, des championnats nationaux qui étaient sympas. Mais surtout, ce qui est impressionnant, alors t'as tout dit quand on s'est retrouvé tout à l'heure, sur la première partie de l'avant-course.
Dans le prologue.
Dans le prologue, quand t'as vu l'échappée partir, t'as dit si la Lidl la met pas au fond, c'est faute professionnelle. Maintenant, il y avait trois cartes. Ton prono.
Quinn Simons et Eva Cech, malheureusement, mes deux pronos.
Ça pouvait totalement rentrer. Mais moi, je trouve, et là, avec Tanguy, ça va être sympa aussi de débriefer avec un DS, parce que ce qu'ils ont fait, c'est presque de la PlayStation, c'est-à-dire qu'ils ont tout suroptimisé à l'américaine, c'est-à-dire on gagne l'étape, donc ça c'était le minimum, mais en plus on va aussi prendre les 50 points pour le maillot vert, donc on a pris le beurre et l'argent du beurre.
Je vous avoue, pendant la course, je comprenais pas pourquoi Vacek roulait pas avec Tratnik, avec Kier. Je me suis dit, s'ils roulent, la victoire est assurée. Pourquoi ils ont pas roulé? Parce qu'ils ont été encore plus gourmands, Ludovic, qui voulait aussi le maillot vert.
Ouais, c'est ça. Et là, ils l'ont pris et bien pris. Donc, ils ont eu tout ce qu'ils voulaient. Mais c'est vrai que dans ce groupe-là, rendre hommage aussi au Movistar, parce qu'ils ont absolument, ouais. Garcia Pierna et Castrillos ont absolument tout essayé. Frigo également. Mais les trois, ils étaient tellement forts qu'on en parlait ce matin, des équipes qui devaient forcément se montrer, parce qu'avec l'UAE et la Visma, c'est compliqué. Bah là, voilà, Lidl Trek a sorti une très très grande étape.
Il n'y avait pas la place de faire mieux pour les adversaires, on les a vus, les harceler. Est-ce qu'il y avait un espace de tir ou non? C'est simplement, ils sont trop forts, collectivement et individuellement, les Lidl aujourd'hui.
Trop forts. Ils sont trop forts. Aujourd'hui, ils ont été trop forts collectivement. Parce que dans la montée, on a eu le droit à des attaques.
Ouais, notamment
Castrio a essayé, Frigo a essayé.
Qui a monté à fond, EF, qui a monté à fond. Il a craqué un petit peu. Mais les deux lieutenants, ils sont restés à côté de Mats Pedersen et ils n'étaient pas inquiets. Ils n'étaient pas inquiets du tout. Non, c'est stratégiquement parfait. Niveau très fort.
Le sprint de Pedersen.
Ah, wow. Vauclin dans la roue qui serait explosé.
Ouais, c'est 1 et 2.
1 et 2 avec Quinn Simmons. Et Vacek était probablement l'un des trois hommes les plus forts également. Ils étaient les plus forts et ils étaient ensemble. La surprise quand même, messieurs, c'est qu'on a un nouveau maillot jaune. Alors, on avait cité beaucoup de noms. On avait cité Jordan Jegat, on avait cité Leonard Van Alvent. Je crois que Ludovic nous avait également parlé de Thorsten Trade, mais on y croyait un petit peu moins. Il était plus loin au général. C'est quand même une surprise de voir ce coureur. Tu le connais, tu le suis, j'imagine, évidemment, Vincent. C'est qui Thorsten Trade en réalité ?
Bah, il y a l'histoire qu'on connaît tous, hein, en 2022, le contrôle antidopage qui, en fin de compte, il y a des anomalies et bah, ça révèle un cancer des testicules qui lui sauve la vie parce que c'est pris de manière précoce. Et puis derrière, il revient, il gagne, je crois, une étape sur le Tour de Suisse de manière magistrale en 2024 et il prend le maillot sur la Vuelta l'an dernier exactement dans les mêmes circonstances. Donc une fois, on pourrait dire, c'est de la chance. Deux fois, voilà. Je pense qu'il a une stratégie. Ouais, ouais. C'est quelque chose qu'il sait faire. Et à noter également, il me semble qu'au début de la dernière Vuelta, donc il était à la Bahreïn, au moment où la Vuelta démarre, il n'avait pas de contrat pour l'année suivante. Et bah l'histoire est belle parce qu'il savait pas si sa carrière allait continuer. Il revient dans son équipe formatrice, la Uno X, et huit mois plus tard, il est maillot jaune du Tour de France.
Maillot jaune
solide,
du Tour.
Bravo.
Ouais, maillot jaune du Tour avec désormais 3 minutes 50 sur Mathias Vacek, 7 minutes 53 sur Tadej Pogacar. Il peut le garder, Tanguy. Alors tu connais peut-être mieux ce genre de coureur que moi, Thorsten Trade. Il peut s'accrocher au maillot avec la Uno X. On a vu Tor Hushovd à l'arrivée absolument ravi, c'est déjà un tour réussi pour les Uno X.
Déjà pour une équipe comme Uno X, porter le maillot jaune une journée, c'est exceptionnel. Et là, je pense que déjà demain, c'est sûr et certain. Et jeudi, je pense qu'il va le garder. Il fait 7e hein, de la Vuelta l'an dernier.
Hein.
Il a pas craqué complet. Hein. Ok, il a porté le maillot l'an dernier, mais il fait 7e de la Vuelta. Donc franchement, ouais, oui, je pense qu'il va garder plusieurs jours le maillot jaune. Et je pense que pour le coup, ce matin, on parlait de la gestion des efforts des équipiers de UAE. Bah, pour le coup, ça, c'est une très bonne chose si Pogacar a encore deux minutes de retard sur ce coureur du Uno X le jeudi prochain, dans le sens où il pourra économiser et en tout cas gérer la gestion de forme de ses équipiers.
On va écouter un coureur, évidemment, qui termine avec les meilleurs. On a même cru à un moment qu'il pouvait prendre la roue de Mats Pedersen. C'est Kevin Vauclin, on écoute tout de suite sa réaction.
Je me suis battu, j'avais pas encore les meilleures sensations. C'était quand même meilleur. Là, comme j'ai dit, ça viendra. Ça vient step by step. Je suis mieux qu'il y a deux jours, je suis mieux qu'hier. Et voilà, on joue comme ça et je suis content de. C'est rare qu'une échappée aille au bout. Et voilà, j'ai pu essayer de me battre pour la victoire. Même si j'ai vite vu en finale en essayant d'être malin, que ça allait être compliqué de pouvoir faire quelque chose. Ils avaient Etrek avec beaucoup de main-d'œuvre. Et voilà, surprendre un Mats Pedersen au sprint, j'ai déjà connu ça au circuit de la Sarthe, c'est pas possible.
Je vais être sévère, messieurs. Est-ce qu'on est déçu par la prestation de Kevin Vauclin ? Il termine 7e du Tour de France l'an dernier. Là, il est un petit peu limite dans la montée, pas capable en tout cas de lâcher un Mats Pedersen. On voit quoi ? Le verre à moitié vide ou à moitié plein, Ludo ?
Non, il a débuté de manière très délicate, c'est le moins qu'on puisse dire, ce Tour de France. Donc moi, je le suis sur ce qu'il dit. Ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est positif. Il faut prendre. Après, voilà, il était dans l'échappée, mais il était suivi par Quinn Simmons à la culotte, vraiment marquage à la culotte sur les 20 derniers kilomètres. Donc il ne peut rien faire, il ne peut pas se détacher, il ne peut pas partir. Et puis, c'était sans doute pas assez dur pour qu'il fasse des différences dans la côte de Montségur. Donc, non.
Tu vois, je pense vraiment qu'un Kevin Vauclin à 100%, la forme de l'an dernier, dans cette difficulté-là, Mats Pedersen, il ne peut pas s'accrocher.
Ah, je sais pas.
Qu'est-ce que vous en pensez,
messieurs ? Castrillo, il grimpe bien, il a essayé, il n'est pas parti. Hein.
C'est possible, mais.
Il fallait être à 100%.
Non, mais de toute façon, il y avait 35 km après le Valais, avec Vacek, avec Simons. Il n'y avait aucun. Mats Pedersen aurait pu craquer dans la montée.
Ce
n'était pas un souci. Hein.
Sur la fin, tu penses qu'il craque un petit peu ou simplement il gère
si, même si Mats
parce
Pedersen,
qu'il perd 200 mètres, on va dire. Il craque un petit peu.
Mais je pense qu'il pouvait basculer avec quasiment 20-30 secondes. Ça passait pour Mats Pedersen. Alors, il aurait mis la main. Vu comment il gagne le sprint, même lui, il aurait pu faire des efforts qu'il n'a même pas eu besoin de faire à la fin. Mais même si, par exemple, on parlait des coureurs de Movistar qui ont attaqué, Kevin Vauclin n'a pas forcément essayé d'attaquer. Mais même si, par exemple, Simon et Vacek auraient eu des difficultés, Mats Pedersen, il aurait un peu aidé pour faire un sprint. Vu comment il le gagne, ça aurait pas été un souci.
Ah, n'hésitez pas à nous appeler en haut 32-16, touche 9 dans Roue Libre, la Libre Antenne évidemment, pour nous donner votre avis après cette étape, notamment sur les coureurs français peut-être, parce que si Kevin Vauclin, on voit le verre à moitié plein, il y en a quand même qui se sont ratés, Vincent, dans le camp français.
Oui, mais ouais, tu penses à Romain Grégoire, hein, quand on l'a vu.
Pas que, tu vois, je sais pas si on peut dire que Romain Grégoire s'est raté, parce que Romain Grégoire et Juan Costiu, c'était le brief de Tanguy, il faut mettre du monde à l'avant. Et ben ils ont mis du monde à l'avant. Le problème, exactement, c'est que ils sont pas assez forts aujourd'hui.
Ah oui, non, mais il y avait pas mieux à faire, hein, ça, pas c'est beaucoup mieux à faire.
Moi, ouais, j'avais pas de regret, ce qu'on se disait, même si Romain Grégoire avait été dans le premier.
Ah, j'ai un regret, moi. Moi, j'ai un regret pour Oupama, c'est Guillaume Martin. Parce que Guillaume Martin, oui, s'il est là, il prend 12 minutes.
Et d'ailleurs, les deux gros regrets de la journée qu'on peut avoir, c'est Jordan Gégat et Guillaume Martin.
Jordan Gégat, la totale qui a essayé.
On parlait de Grégoire. Mais on parlait s'il avait été dans le premier groupe, bah, il aurait été battu pareil. Hein, donc, pour le coup,
mais il était dans le groupe. C'est juste qu'il explose avec les sprinteurs.
Dans le deuxième groupe, Romain était en bout de course puisque
il termine dernier,
Mathieu qui fait 11e,
il termine 22e
ou avant-dernier du groupe derrière.
Dans ces situations-là, on demande quand même aux coureurs, parce qu'il y a des points UCI aussi à aller chercher, on leur demande d'aller gratter ce qu'il faut gratter, ou c'est pas l'ADN de la Groupama MEDEGI. Je rappelle que tu es directeur sportif, évidemment, de cette équipe.
Ça serait nier que les points UCI sont importants aujourd'hui, mais là c'est même pas le sujet. Romain, c'est quelqu'un qui il doit aller chercher une performance. S'il pouvait faire 11e, il aurait été faire 11e. Il l'a fait le sprint, mais c'est faire monter à la fin. Ah, peut-être qu'au lieu de faire 22e, il aurait pu faire 17e.
Ouais, ou 15. C'est quoi, c'est le top 15 qui marque des points, bon, là, il me semble.
Il a essayé de faire le sprint. Ouais. Il s'est fait doubler. Il n'y a pas eu de débat sur ça. Hein. Il a fait le sprint juste trop juste. Juste aujourd'hui.
Vincent, tu nous avais parlé de Jordan Gégat, potentiel maillot jaune. Je pense que c'était vraiment l'idée. On a vu Jordan Gégat essayer de ressortir avec Anthony Turgis, mais le timing n'était pas bon.
Ouais, exactement. Le groupe, finalement, est parti très, très tôt. On pensait tous qu'il y allait avoir une énorme bataille. Alors, ça a peut-être aussi servi les affaires de Pedersen. Si on a une bataille de 60 km, peut-être que la côte de Montségur, s'il se fait un petit peu agresser à l'intérieur, c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour lui. On ne sait pas, évidemment, même s'il était très, très fort aujourd'hui. Mais on voit le groupe de 33 qui part et on voit Jordan Gégat et Anthony Turgis qui tentent un move pour essayer de raccrocher le wagon, mais voilà, malheureusement, les UAE ont commencé à coller et derrière ça fait rideau et c'était terminé, quoi.
On s'est raté du côté de la totale, tu trouves, Tanguy, un petit peu quand même?
Oui, je pense qu'on s'est raté. Il y avait quand même Alexandre Delette devant, mais quand on voit l'attitude qu'ils ont eue hier avec beaucoup de coureurs qui faisaient beaucoup d'actions pour être dans l'échappée, aujourd'hui avoir Je dirais pas qu'il fallait en avoir plus, parce que si on compare avec aujourd'hui, par exemple, la Groupama FDJ, il y en a deux, Lidl Trek, ils en ont trois. Donc un coureur, c'est pas choquant d'en avoir qu'un. Par contre, malheureusement, c'est peut-être pas le coureur qu'il voulait avoir devant.
Oui, parce qu'il y a deux problèmes en fait avec ça. C'est que Jordan Gégat, il rate une occasion, bien sûr, il prend pas le maillot jaune alors qu'il avait 2,28 de retard, donc il avait 2,30 de marge sur ceux Thorsten Train et Sean Quinn qui sont devant. Mais maintenant, il a surtout 10 minutes face à des mecs qui vont être des candidats comme lui au top 10. Ouais. Vous pensez que là, à Paris, des Thorsten Train, des Sean Quinn, on peut les avoir sur dans un fond de top 10, ils peuvent s'accrocher, on peut avoir une belle surprise. J'abuse un peu.
Non, mais Train, je pense qu'il peut, il peut le porter déjà pendant plusieurs jours. Et puis après voir un peu sa condition, mais s'il est dans un bon tour, il peut faire dans les 15, je pense qu'il peut, il sera là, il sera pas très loin.
Dans Sean Train, ça va être le Eulalio du Giro, tu penses, Tanguy?
Oui, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Ludovic. Et encore une fois, si on se base sur ce qu'il a fait de la Vuelta l'an dernier, faire 7e de la Vuelta, ça vaut un top 15 sur le Tour de France. Là, il a du temps d'avance, parce que on parle de 7 minutes 53 sur Tadej Pogacar. Mais c'est sur Tadej, sur les coureurs qui sont à peu près de son niveau, il a quasiment 10 minutes d'avance. Hein.
Mmh,
donc 10 minutes,
ouais, c'est bien.
C'est un bon matelas.
On en parlait, Kevin Vauclin, justement, sur le verre à moitié vide, à moitié plein. Il nous parle tout de suite de ses sensations après l'étape, les sensations qui reviennent, je pense.
Quand on arrive pour la victoire, on n'écoute plus nos sensations. Comme j'ai dit, je suis vraiment un compétiteur et j'ai envie de gagner des courses. Et dès que j'arrive pour la gagne, c'est sûr qu'on pense différemment et on se bat plus. Voilà, donc je pense que je peux être content. Je me suis battu, j'ai encore pas les meilleures sensations. Je pense qu'on l'a vu dans la bosse, hein, j'étais pas dans les 5 meilleurs. Mais j'ai aussi essayé d'être malin, à pas aller trop dans le rouge. On sait que la chaleur c'est très dangereux. Et j'ai plutôt préféré suivre Mats Pedersen parce que je savais qu'il avait de la main d'œuvre et que ça sert à rien de se mettre trop dans la zone rouge.
Vous êtes bien sûr 100% route, la radio digitale RMC dans Roue Libre, la Libre Antenne. Vous avez la parole maintenant. C'est Rémi qui a fait le 32-16 touche 9. Rémi, tu voulais réagir sur ce que tu as vu aujourd'hui?
Oui, bonjour les gars, comment allez-vous?
Salut Rémi.
Salut Rémi. Salut Rémi.
Eh ben écoutez, donc, écoutez ça très bien. Alors déjà, petite parenthèse, je suis fan de NoX depuis 2007 à l'époque.
Ah,
donc,
c'est toi
vous dire que... Exactement, c'est juste ça peut-être. Donc autant vous dire que depuis 2007, à l'époque, j'étais content des 2.2 où on faisait 47e. Là maintenant, j'ai le maillot jaune. Donc autant dire, c'est...
Ah, c'est toi qui as le maillot jaune. Là, c'est vraiment... C'est,
oui.
c'est
ton équipe. Ah, j'ai le maillot jaune. Vous n'êtes pas au courant, en fait, c'est moi, je vous appelle. Je
mais Rémi, t'as déjà appelé tu nous as déjà appelé.
Oui,
sur la radio numérique,
oui.
Ouais, ça y est, je me rappelle de toi.
Oui, bien sûr. Pas mal de fois, oui, depuis 10 ans à peu près.
Mais de chez Fana.
Exactement, voilà, exactement. Je suis peut-être le seul. Hein. Mais ouais, du coup, non, je vais surtout revenir aussi surtout sur Lidl Trek et puis sur l'État, parce que Lidl Trek, on a très bien vu que Vacek s'est sorti avec Kratnik. Je me suis dit que Kratnik allait sortir avec Vacek et puis du coup, ça allait partir au bout, etc. Puis on a bien vu que finalement, le plan, c'était pas Vacek, la victoire, c'était surtout Mats Pedersen pour avoir un petit peu de marge au niveau du maillot vert. Il a totalement réussi son coup, il est passé troisième au sprint intermédiaire, si je me trompe. Il remporte l'étape avec Vacek et Simon, c'est totalement incroyable. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres choses à taper aux adversaires? Ça, j'en sais rien, et sûrement que oui.
Honnêtement, je pense pas. Hein.
Ils ont essayé.
Hein. Honnêtement, je pense pas. Tu penses à quoi, toi, pour essayer de les bouger?
Bah, peut-être que du coup, ils auraient peut-être dû sortir avec peut-être 4-5 équipes. Alors, je te dis pas Train, forcément, mais des équipes qui étaient surreprésentées. Par exemple, je sais pas, moi, je crois qu'il y avait... il y avait peut-être aussi Vora, pardon, qui étaient plusieurs. Enfin, il y avait pas mal d'équipes qui étaient plusieurs, en gros, donc je pense que peut-être ils auraient dû tester ça. Et puis au pire, ça aurait raté. Bon, bah tant pis, ils auraient raté, mais ils auraient essayé, parce que je pense qu'il y a peut-être un goût amer. Alors, pas chez les deux treks, forcément, mais peut-être que chez les autres, il y a sûrement un goût d'amer en mode de. Ah, peut-être que du coup, on n'a pas fait le nécessaire. Après, Mats Pedersen, du coup, a été très bien. Vacek et Simons, incroyable aussi.
Incroyable. De c'était leur côté. Le plus fort.
Ouais. Ah bah c'était plus fort, Pedersen quand il est parti à 300 mètres, bah, on a bien vu que du coup il y avait lui des autres quoi.
Je pense que ils auraient pu tenter autre chose, ça aurait pas changé grand chose. Parce que justement si Vacek il passe pas de relais, en fait là c'est flagrant parce qu'il n'y a que Tratnik avec lui. Ouais. Mais je pense que le plan c'était juste parce qu'il est sorti dans la montée, à la première vraie montée de l'étape. Oui. Et je pense que le plan, on voit bien comment ils ont géré à la fin où ils ont demandé à Simons de s'occuper de Vauclin et de s'occuper de Frigo. Où ils sont très bien répartis le travail. Ah ouais. Je pense qu'à ce moment-là, ils ont dit Vacek, la moindre attaque dans la première montée, tu suis et tu tournes pas. Et là, ça a été flagrant parce qu'il était tout seul. Mais si on avait eu 3 ou 4 coureurs, il aurait pas pris de relais pareil. Et 4 coureurs n'auraient pas ramené Vacek sur un plateau pareil. Donc, je pense que juste Lidl Trek ont super bien géré. Et malheureusement, il n'y avait pas grand-chose d'autre à tenter, sauf si vraiment plus fort dans la dernière montée, sortir seul à 2-3. Mais Pedersen était très fort aussi. Donc,
voilà, peut-être que. Après, effectivement, avec Kratnik et Vacek, bon, forcément, il ne fallait pas sortir, mais je pense qu'au moment où, du coup, le groupe de 10 est rentré, peut-être, du coup, sortir à 4-5 à ce moment-là. Du coup, il restait, je crois, 25 bandes de l'arrivée, sortir à 4-5 et puis, du coup, tenter de faire quelque chose. Après, je ne dis pas que littéralement, c'est ce qu'il fallait faire et qu'ils auraient gagné, forcément. Je ne dis pas ça parce que c'est impossible de savoir. Et puis, je ne critique pas aussi le plan des Dotrek parce que c'est vraiment, du coup, une équipe qui a été très forte sur ce coup, ils ont été meilleurs. Mais je me dis que peut-être qu'il peut y avoir 2-3 regrets.
Regarde, Rémi, les Movistar ont essayé. Je veux dire, Castrillo, oui. Combien de fois il a attaqué. Garcia Pierna également. Il me semblait très fort, les deux. Mais oui. Voilà, je veux dire, à chaque fois, ils se font reprendre. Et pourtant, il a attaqué dans le Mont-Ségur. C'était pas assez dur. C'est sûr que si c'est un autre col, peut-être que Castrillo, il s'en va. Mais là, il n'y avait rien à faire. Ils étaient vraiment, ils marquaient. Ils étaient, et puis après, quand tu vois le sprint de Pedersen, ça donne encore moins de regrets à tout le monde. Parce que vraiment, il a été, je trouve, le sprint impressionnant de chez impressionnant.
Ouais, puis messieurs, en fait, les Lidl, ils étaient 5. Parce que Sean Quinn et Thorsten Train, ils roulaient pour créer encore plus d'écart sur Tadej Pogacar. C'est les deux coureurs, on les a pas vus attaquer dans le final. Eux, ils étaient très contents d'être là, de gagner des secondes.
Non, tu prends
donc,
le jaune.
Donc c'était déjà dans la poche. Je connais pas bien, moi, Thorsten Train. Rémi, toi, visiblement, tu le connais beaucoup mieux que moi. Tu le vois aller jusqu'où dans ce Tour de France avec le maillot jaune?
Alors déjà, il faut savoir que, j'ai écouté tout à l'heure ce que vous disiez, alors Sean Quinn, alors j'ai un coureur qu'on peut respecter aussi, et c'est plus un puncher, alors que Train, c'est pour le coup un vrai grimpeur, qui était de base censé être le lieutenant numéro 1 de Johansson. Bon, autant vous dire que là, je pense que Johansson, il va dire, bon bah écoute,
non, mais c'est
un
truc,
ouais. Moi je vais un peu tout ça, Après, c'est que je devrais aller, bon je pense que bon demain, et puis je pense que tourne aller aussi, qu'il y a quand même pas mal d'avance, mine de rien, non, ça devrait aller. L'étape qui me fait le plus peur en soi, c'est pas celle du sel, c'est celle d'après, c'est celle du Luron. Parce que Train en soi, au niveau du punch, j'ai quand même un petit doute. Par contre, s'il passe le Durand, là, il peut garder le maillot jaune jusqu'à Markstein, voire sur le don, voire jusqu'au chrono en soi. Parce que pour moi, ce serait vaguement Durand. S'il a le maillot jaune au Durand, c'est-à-dire qu'en gros, il sera en très grande forme et passera Markstein et tout le reste. Et bah, du coup, il abandonnera le maillot jaune sur le...
Sur les champs, il le garde sur les champs, à t'écouter.
Je sais tous les jours, alors là, je sais tous les jours, il n'y a pas de souci.
J'imagine.
Mais objectivement, non, je pense qu'il va pas sur le chrono, je pense, de vient tenant les bains.
Ah oui, donc c'est déjà très costaud. Il vaut quoi en chrono? Il se défend un petit peu ou c'est du niveau de Lenny Martinez?
Disons qu'il est présent, on va dire qu'il est présent sur les courses, quoi, on va dire.
Très bien.
On va dire qu'il est présent, quoi.
Attaque le gratuit, là.
Lenny Martinez, il a rien demandé. Il a pris une balle.
Il n'est même pas dans l'histoire.
Mais je voulais pas dire Guillaume Martin, parce qu'après, sinon, on va dire le groupe AMA FDJ. Je vais pas dire Anthony Turgis, sinon, on va porter plainte. Ça ne vous va jamais. Je vais dire Romain Bardet, il a pris sa retraite, il n'y a pas de problème. Comment ils vont gérer, tu penses, les Uno X avec Johan Eusen? Parce qu'on a vu, hein, Tor Hushovd, évidemment, il était aux anges. Johan Eusen, il m'a l'air très en forme, hein, également, depuis le début du tour. C'était son lieutenant qui maintenant devient le leader un petit peu de l'équipe. Tu penses que ça peut créer des tensions, mais ça change la donne?
Non, je pense pas, parce que Mildan, ça reste une équipe quand même très familiale, très lune. Alors même si c'est parti à Bahreïn, il a quand même été formé du coup au sein de Uno X. Alors il n'a pas forcément du coup été présent avec Johannesson la première partie de sa carrière, même si Johannesson était présent, on va dire, sur des courses secondaires. Mais non, je pense pas. Au contraire, je pense que ça va faire un petit peu... Je pense qu'au contraire, du coup, ça va peut-être émuler le groupe où, justement, des mecs qui vont se dire Johansson, il va trouver un petit peu pour Train, en mode bah, garde le maillot jaune le plus possible. Et puis dans les Alpes, parce qu'il ne faut pas oublier que littéralement, le Tour de France, il va jouer la troisième semaine. Hein. Oui, et selon moi, du coup, Train, il n'aura plus le maillot jaune. Hein. Donc si Johansson, il donne deux, trois petits coups de relais à Train, bah, je pense que du coup, c'est tout bénéfice pour lui. Justement, il va, dans un sens, au Train, il va se dire, bah, moi, je suis... J'étais aidé par un leader qui est censé faire top 5 d'après les dires de l'équipe. Donc, je vais pouvoir aussi l'aider encore plus. Et justement, l'équipe aussi va dire, attends, si Johannesson aide Train à garder un maillot jaune, ben en fait, ils vont peut-être aussi se donner encore plus au sein de l'équipe. Et d'ailleurs, je regarde un petit peu les résultats de Train. Sa meilleure place en chrono, c'est 8e au Super de Norvège 2020. Sinon, ouais. C'est 20e.
Après, championnat, voilà. C'est pas pour être méchant, hein, mais le championnat de Norvège de contre-la-montre, bah, Vincent Prévost. Non, il l'a fait, il a terminé 7e. Donc, je sais pas si c'est évidemment
Vincent la référence. Vincent a regardé, il a bien aimé. Ouais. C'est un bon moment.
Il faut respecter le Bassoir, mais le doyen, je sais pas, il y a quand même un championnat du monde. Il n'y a pas de cas, du coup, dans.
Ah oui, c'est
pays,
vrai,
quoi.
C'est vrai. On a Tobias Foss également.
Bon, Foss, il fait 2e. Mais bon, ça, c'est pas de dire, c'est avec personne qui s'impose. Mais voilà.
J'avais pensé que c'était Tobias Foss. Demain, Uno X, on va les revoir, évidemment. En tête du peloton, mais ils ont aussi un sprinter avec Søren Verenskold.
Oui.
Il peut faire quelque chose, tu penses, ou c'est trop juste? Attendez, moi je vous avoue, pour une fois que j'ai un supporter d'Uno X, je le garde, je les sors, on va parler d'Uno X. Hein,
Abrahamsen, faut qu'on parle aussi, parce que.
On le fera, Verenskold.
On parle de qui vous voulez.
Verenskold, ça peut aller chercher une étape au sprint, quand même pas.
Je ne pense pas que ça va chercher une étape au sprint, un sprint massif, non, face à des Coy, des Merdières, même des Philipsen, ou voir aussi, entre guillemets, le tiers inférieur, donc tout ce qui est Fretin, Canter, Guermail, ça passera pas. Une étape tout court sur ce Tour de France-là, je pense pas. À terme, oui. Par contre, un top 10, il peut faire un top 10, et puis pourquoi pas du coup un top 5, en soi. Mais demain, top 10 demain, je pense.
Très bien, merci. Merci Rémi. Écoute, tu nous appelles quand tu veux, hein, évidemment.
Rémi va rappeler parce que maintenant il va y avoir le maillot jaune.
Ah bah alors là, t'auras l'occasion. Hein, c'est le moment de prendre la lumière. Hein. T'as investi en 2007 sur Uno X. Honnêtement, c'était peut-être le placement le plus à risque. Là, t'as fait un beau bénéf. Merci Rémi, à la prochaine.
Est-ce que je peux dire un petit mot, s'il vous plaît, 2 secondes ou pas?
Bien sûr,
vas-y.
Du coup, ouais, un petit mot pour mon pote Edouard qui m'écoute. Et surtout pour toi, Vincent aussi. J'écoute beaucoup tes podcasts.
Ah, bah, t'es gentil. Merci.
Donc, voilà, grand fan aussi du coup tordu.
Ah,
donc,
c'est
voilà.
Sympa. Bah, ça me fait plaisir. Bah, tu m'as fait la journée.
Donc, merci à toi pour ce podcast.
Et bah, merci beaucoup.
N'oublie pas d'aller demander les 50 euros comme prévu à Vincent pour la petite pub. Très, très bonne inspiration.
Il fallait le faire. Il m'a dit que ça aurait été de base. Il fallait le faire. Donc, je sais pas, moi, du coup, dans ces cas-là.
Merci, Rémi.
Merci,
Rémi.
Merci beaucoup, les gars. Au revoir.
Et on continue. On a un nouvel auditeur déjà, peut-être. Alors, si c'est un nouveau fan d'Uno X, là, vraiment, il va y avoir de la concurrence. C'est Kevin qui est avec nous, qui a fait le 32-16. Salut Kevin.
Salut les gars, salut tout le monde.
Salut Kevin.
Je suis plus fan du Uno de société que de jeu, Uno X. Ouais.
Très bien.
On va moins en parler là.
tu voulais débriefer l'étape avec nous?
Ouais, très rapidement. Moi, ce que j'ai apprécié, moi, ça, voilà, en tant que fan de cyclisme, j'aime bien moi la dimension collective en fait du sport. Hein, fameux précepte qui dit que c'est un sport individuel qui se court en équipe. Et on a eu là deux exemples de gestion, à la fois sur la gagne de l'étape avec Lidl Trek, qui a vraiment parfaitement géré, notamment la montée du dernier col, et puis la gestion du AE avec le filtrage finalement de l'échappée, et puis le choix du bon client. Pour aller chercher le maillot jaune et de la bonne équipe, parce que c'est pas aberrant de penser que le maillot jaune va pouvoir rester dans l'équipe Ineos jusqu'à la sortie des Pyrénées. Ça va dépendre un petit peu de comment ça tabasse dans l'étape du Tourmalet, mais finalement voilà, ils ont pu reporter la tenue de la course et la gestion de la course pour les étapes à venir. Donc voilà, c'était admirablement géré et vachement agréable à regarder.
Voilà. Le maillot, il va pas changer au Tourmalet. Tu penses que Pogacar ou Sean Quinn, ça peut aller tabasser, tabasser, c'est un grand terme, je m'emballe un petit peu, ça peut aller chercher, on va dire, en tout cas, Thorsten Train.
Non, alors Sean Quinn peut, non, je pense pas. Je pense
il
pas,
a 20 secondes, hein, je crois, à peu près, Sean dépend, Quinn.
Ouais. Tout va dépendre, en fait, de l'attitude des concurrents du AE. Est-ce que Vingegaard, voire Sexas, voire Evenepoel va attaquer dès le Pourmalet? Si ça attaque dès le Pourmalet,
cet été, l'été de la fraîcheur,
voilà, ça peut reprendre un petit peu. Si par contre, ce qui va être à mon avis la stratégie du AE, ça se transforme en une course de côte pour la montée vers Gavarnie, là, jeudi, je pense qu'il est capable de garder suffisamment d'avance pour garder le maillot jaune. Donc, et à mon avis, UAE va pas forcément chercher à dynamiter la course dès le Tourmalet. Donc ça va dépendre un petit peu de l'attitude de Visma notamment. Si Visma, si Vingegaard se sent bien et que ça veut dynamiter, peut y avoir un petit matelas à l'arrivée qui permette à Pogacar de récupérer le maillot jaune.
Moi, il y a un truc qui me fait peur, les gars, c'est Groschartner qui a dit en interview, je crois ce matin, que UAE avait visé une étape sur la première semaine et que cette étape n'avait pas encore eu lieu. Donc, si on regarde ce qui se passe sur la suite, si on regarde le parcours jusqu'à dimanche, jusqu'à la journée de repos, ça veut dire qu'ils ont prévu de
tout faire passer dans le Tourmalet.
Ça peut être
que celle-là. Ouais,
ils peuvent gagner l'étape. Justement, à mon avis, la meilleure stratégie pour gagner l'étape pour UAE, c'est de faire un bon train dans le Tourmalet et puis derrière sur juste la montée finale d'aller Pogacar, ça va être le grand favori pour aller chercher l'étape. Je pense pas qu'ils aient besoin de dynamiter et de faire tout exploser dès le Tourmalet pour jouer la gagne de l'étape. Donc oui, c'est clairement l'étape qu'ils ont visée, mais sur une montée sèche. Si traîne dans le maillot jaune, j'ai du mal avec les prénoms norvégiens, mais avec le nom de norvégien.
Tu dis le maillot jaune, c'est parfait. Hein. Ouais, je sais pas si t'as remarqué, on n'a pas encore prononcé son prénom une seule fois. On dit le maillot jaune. Il y a que ça, Rémi qui était avec nous qui donne le nom de naissance.
Donc ouais, s'il est toujours dans le groupe au pied de la montée finale, je pense qu'il peut perdre moins de 5 minutes sur la montée finale. Donc ouais, moi je pense que si, c'est pas UAE qui dynamitera la course dans le Tourmalet. S'il y en a qui doivent dynamiter, ça peut être pourquoi pas Décathlon, CMA-CGM.
Pour le coup, moi je pense que ça sera UAE. Oh, justement, ouais, là ils ont une opportunité en or de taper un gros coup dès jeudi, prendre une grosse option d'avance sur les Sexas, sur les Vingegaard, sans prendre le maillot jaune et sans avoir contrôlé les autres gens.
Mais surtout
et
que
dans cette
étape, le final, il n'est pas trop compliqué. C'est le Tourmalet avant qui est vraiment difficile. Après, je crois que c'est du 15 bornes à 3-4%. Si tu veux vraiment faire mal à tout le monde, c'est dans le Tourmalet, non, Vincent, qu'il faut tout vous faire valser.
Ouais, c'est exactement ça. Faut envoyer un gros rythme dans le Tourmalet.
Ils savent faire. Hein.
Ouais, c'est vrai que la montée finale n'est pas très, très compliquée.
C'est du 18,7 km à 3,7%.
Alors, deuxième catégorie.
Ouais, ouais. L'endroit est magnifique, ouais, mais si tu veux faire mal aux jambes, c'est vraiment le Tourmalet, quoi.
Ouais. Le Tourmalet, la bascule, elle est à 39 km de l'arrivée, donc après avec une longue descente.
Ouais,
mais
même.
Du coup, si pour moi,
tu peux envoyer du monde à l'avant aussi. Hein. On espérait voir un McNulty, par exemple, à l'avant. Ouais. Tu peux mettre un Tim Wellens ou un McNulty à l'avant, espérer le reprendre, comme on a beaucoup vu les Visma le faire, par exemple, avec Wout van Aert. Mais de toute façon, quand t'as des coureurs comme ça, tactiquement, c'est quand même beaucoup plus facile. On dit souvent, ils courent très bien. Mais c'est comme la Lidl. En réalité, t'as raison. Hein, je suis d'accord avec toi, Kevin. Ils ont très, très bien couru. Mais sincèrement, tu penses pas que c'était de toute façon les trois hommes les plus forts, les Lidl, dans l'échappée avec Vacek, avec Simons, avec Pedersen?
Ouais, mais bon, de la manière dont ils ont finalement géré un petit peu le tempo, maîtrisé les attaques pour que Pedersen puisse basculer, c'était quand même vachement léger, parce qu'il y avait des coureurs, peut-être pas plus fort, mais au moins aussi fort dans le. Et c'est vraiment la dimension collective qui les a fait, qui leur a fait gagner l'étape. Après, pour revenir sur le fait d'envoyer des coureurs à l'avant, moi, je vois bien pour le coup Visma ou Decathlon sur l'étape de jeudi envoyer justement des coureurs à l'avant. Moi, honnêtement, je pense que Sexas va essayer quelque chose dans le Tourmalet. C'est celui qui a le moins à perdre parce que c'est celui à qui on pardonnera le plus d'exploser. S'il est bien, s'il a les jambes. Je pense que le coup peut partir de lui et puis après Pogacar partira avec. Mais je m'attends à un gros rythme par l'équipe Decathlon dans le Tourmalet.
Ouais, puis l'avantage d'avoir un homme à l'avant, c'est que c'est double. Ça peut être évidemment pour attaquer et si jamais tu as un coup de moins bien, bah tu peux retrouver un Nicolas Prodhomme, un Tige Benoot. Vous y croyez messieurs à cette tactique?
Non, non.
Merci, messieurs. Merci, Kevin. Oh non,
vous me rappelez jeudi soir, excusez-moi.
Attends, tu nous rappelles jeudi soir, Kevin. Je rappelle, évidemment.
Motive pas Ludovic à refaire un pari, on a déjà trop fait.
Mais pour l'instant, j'en ai pas perdu. Donc, mais là, c'est, pour moi, le Tourmalet, on est trop loin. On est à 40 km de l'arrivée. Et il y aura des gros rythmes, il y aura mais même Sexas. Pour moi, je lance le pari. Non, il ne prendra pas le lead sur cette montée. Je pense que c'est trop loin, c'est pas maintenant.
Puis pour moi, surtout, il a pas de recul. Il n'a pas eu de course de montagne aujourd'hui sur le Tour de France pour Paul Sexas. Il ne sait pas encore vraiment où il se situe dans la hiérarchie. On a eu que des, je me comprends, mais des petites montées. Voilà, il a titillé un peu Vingegaard.
Non, mais là, ils n'arriveront pas à 25. Ce que je veux dire, c'est qu'ils n'arriveront pas à 25 en haut du Tourmalet, ça c'est sûr. Mais que Vingegaard parte là, non.
C'est UAE. Pour moi, UAE vont faire la course à fond. Sexas va essayer de s'accrocher au mieux.
Voilà.
Et après cette étape-là, il pourra se dire bon, mon niveau, il est là. Et après, ils établiront, je pense, ils vont adapter la stratégie.
On verra déjà si Evenepoel est là, tout ça. Voilà, déjà, ça parle. Ça, pour le coup, j'ai déjà des doutes.
Qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Ça te va, toi, comme stratégie?
Non, je sais pas. Moi, je pense que vraiment, je reste sur ma conviction. Après, ça sera pas pour faire exploser Pogacar que Sexas s'attaquera et que Decathlon. Mais justement, pour aller tester les Ayuso, les Evenepoel, ses concurrents directs là, pour le podium. Sauf si UAE, en effet, fait tout péter dès le Tourmalet, et dans ce cas-là, faudra suivre le plus longtemps possible. Mais si ça déclenche pas dès le Tourmalet, de la part d'UAE ou de la part d'Isma, ça me paraît pas aberrant d'y aller. S'il est bien, s'il a les jambes, et a priori, d'après les infos qu'on a, la récupération se passe pas trop mal pour l'instant. Pour moi, la bonne stratégie pour Decathlon, c'est d'aller tester, c'est d'aller voir un petit peu justement comment sont les jambes des Evenepoel. Puis la chaleur est un paramètre aussi, comment les organismes récupèrent. On va avoir des grosses défaillances sur ce Tour de France avec ces températures-là. Les corps vont, dans la durée, vont prendre cher et on sait que les organismes réagissent différemment en fonction des coureurs.
Merci Kevin.
Voilà.
Sois avec nous jeudi soir pour débriefer le Tourmalet. À mon avis, tu auras beaucoup de choses à dire. Merci Kevin.
Avec grand plaisir. Salut les gars.
Salut Kevin.
Salut Kevin. Oui.
Allez, tout de suite une petite respiration et on revient dans Roue Libre, la Libre Antenne. N'oubliez pas de faire le 32-16 touche 9 pour venir avec nous débriefer la quatrième étape du Tour de France.
RMC 100% route. Roue Libre.
Florian Marlière.
On est de retour dans Roue Libre, la Libre Antenne sur 100% route, la radio digitale d'RMC pendant le Tour de France. N'hésitez pas à venir débriefer avec nous. Je voyais Tanguy Turgis. On a eu une petite respiration. Tanguy Turgis voulait absolument réagir sur la stratégie. On reste sur le Tourmalet, Tanguy.
Oui, non, mais Kevin, c'est très intéressant ce qu'il a émis comme idée. Mais c'est juste. À mes yeux.
De quoi ? C'était quoi ? C'était de mettre quelqu'un à l'avant ?
Déjà que Paul Sexas et Decathlon prennent en main dans le col du Tourmalet. Pour moi, en fait, c'est pas que l'idée est pas bonne, c'est qu'il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin. L'enchaînement Aspin, 12 km, 6,5%, Tourmalet, 17 km à 7,3%, UAE, c'est sûr qu'ils vont tenter quelque chose. Pour moi, il faut s'accrocher. Non. Et c'est là où je rejoins que, par contre, l'idée d'avoir un coureur devant de Florian, on peut partir de l'idée que Paul Sexas arrive à basculer avec les champions. Mais que pas son équipe. Et tu peux retomber sur un équipier en haut qui a basculé.
J'ai envoyé un message à Decathlon CGM. Je vais lui dire s'il faut faire ça.
Moi, je ne les vois pas faire tout casser, tout péter. Mais en tout cas, ils vont rouler extrêmement fort. Donc ça équivaut à peu près à la même chose.
UAE ou Decathlon, quoi ?
UAE. Ils vont rouler extrêmement fort. Donc effectivement, en haut du Tourmalet, il ne restera pas 50 coureurs. Ça, c'est sûr et certain. Il restera déjà les plus forts. Et je pense que déjà, on aura des bonnes indications. Mais... rouler pour faire des différences avec 40 km derrière, non, je crois pas.
Ça fait pas peur à Tadej Pogacar.
Ouais, ce que j'allais dire, peut-être qu'en haut du Tourmalet.
C'est peu, c'est trop tard. Il va attaquer dans le restaurant.
C'est même très peu parce que c'est une vraie descente, le col du Tourmalet. Donc, oui, la bascule, elle est à 39 km. mais tu replonges jusqu'au kilomètre 166, il reste 20 km. Et 20 km, Tadej Pogacar, il nous a fait, ouais. Il en a fait plein.
Et sincèrement, c'est pas du tout pour être piquant, mais est-ce que vous pensez que la décathlon CMA-CGM, elle a les moyens de tout faire péter dans le Tourmalet? Parce que, est-ce que, sincèrement, est-ce que c'est avec Prodhomme, qui sont des bons coureurs, Richitello, Benoît, que tu vas lâcher les équipiers des tout meilleurs? Est-ce que tu vas lâcher, sans parler de Lipovic et Remco, mais leur équipier? Est-ce que tu vas lâcher un Hindley? Est-ce que tu vas lâcher un Del Toro, un Adamiet? Donc quel est l'intérêt?
Mais celui qui peut les faire lâcher, c'est Sexas, mais c'est pas les autres.
Ça. Mais donc,
les autres.
Ouais, mais
Ils sont là pour l'aider, c'est ce que j'avais dit pour Prodhomme. Ouais. C'est pour ça qu'ils sont là vraiment pour lui, normalement. Donc, si jamais il y a un coup de moins bien, ou si jamais il faut le raccrocher à un moment donné, ou l'essayer de courir après ceux qui sont partis, oui, ils seront là pour ça. Mais faire craquer Del Toro, tout ça, non, je crois pas. Hein.
Ça peut pas être les IF à nouveau, les grands animateurs. On a Sean Quinn qui a 20 secondes, il est dans un duel avec Thorsten Train, hein. Je parle pas évidemment d'attaquer Pogacar, mais on a Carapaz aussi qui est une jolie carte. Vincent, ça peut pas être notre animateur?
Je trouve qu'il lâche quand même beaucoup de cartouches sur les débuts d'étape. Carapaz, c'est un peu du hurrah vélo. Alors ça peut fonctionner. On sait qu'il termine très très bien les grands tours. Sur les troisièmes semaines, il est redoutable. Mais est-ce qu'à un moment donné, il va pas faire l'erreur tactique d'aller lâcher une cartouche de trop à un moment donné, ou faire le fou sur un début d'étape et prendre 10-15 minutes dans les valises et puis nous en gagner deux en troisième semaine et le maillot à poids. Voilà, ça c'est. Mais c'est aussi pour ça qu'on l'aime, Carapaz, parce que lui, il n'a pas peur. C'est un attaquant, il y va, quoi.
Il ne fait pas semblant. Donc ouais.
On a Louis avec nous au 32-16 qui, je crois, ne veut pas réagir sur l'étape, mais plutôt pointer du doigt des éléments du début de ce Tour de France.
Oui, bonsoir à tous.
Salut,
salut Louis.
Bonsoir. Quelques éléments qui me viennent à l'idée. D'abord, Sniff. J'ai le cœur serré quand je vois un petit peu Barguil et Julien Alaphilippe. Alaphilippe. Mais on passe à autre chose rapidement.
Attends, quand même, Barguil et Alaphilippe, t'as raison, sont les chouchous du cyclisme français des 10 dernières années.
Oui, donc on a le cœur un peu serré.
Tu penses quand même qu'on peut les avoir à un bon niveau sur ce Tour de France? Ils se gèrent peut-être?
Je crains que non. Mais je ne leur souhaite que du mieux, bien sûr.
Désolé, voilà. Je t'ai coupé, mais c'est moi aussi, je suis très attaché à ces coureurs et je partageais ta peine.
Ensuite,
vas-y,
bon, de façon plus positive, je trouve très rapidement que Sexas et Martinez courent juste. Voilà. Voilà. Ensuite, un grand point d'interrogation sur l'équipe Decathlon, par contre. Déjà dans sa composition, j'ai l'impression qu'ils se sont éparpillés en faisant appel à Olaf Cook, le sprinter, oui, ouais, au dernier moment. Je ne comprends pas trop les efforts que fait Prodhomme l'autre jour. Je pense qu'ils ont autre chose à faire. Sur l'étape de
Louis, je me permets, t'es de la famille de Ludovic Duchesne ou pas? Parce que j'ai l'impression d'entendre Ludovic dans le prologue, notre émission de midi à 14h.
Ah non, parfait. Bon.
Vous êtes sur la même longueur d'onde en tout cas.
D'accord. Ensuite, l'étape d'aujourd'hui, alors là par contre, travail admirable de Lidl Trek. J'ai beaucoup aimé cette étape et l'esprit d'équipe de Lidl Trek. Enfin, l'esprit. La
cohésion, la tactique.
De Lidl Trek, récompensé à juste titre par un maillot blanc, un maillot vert. Ensuite, pour en revenir à nos favoris, je vais faire une référence un petit peu poétique à Jane Austen qui a écrit Orgueil et préjugé. Moi j'ai envie d'intituler Orgueil et susceptibilité, qui sont deux caractéristiques, la susceptibilité peut être positive aussi, des grands champions. Je ne parle pas des très bons coureurs, je parle des grands champions, et j'en ai trois qui me viennent à l'esprit, c'est Hinault, Merckx et Tadej Pogacar.
Ce sont
trois orgueilleux. Ils sont orgueilleux dans le très bon sens du terme. Ce que je veux dire par là, c'est que sur l'étape d'hier, quand Pogacar décide de gagner cette étape hier, je pense qu'il en eût été tout à fait autrement si lors de la première étape, on va dire que Ganna ait porté le maillot jaune. Il est parti de Barcelone le lendemain avec le maillot du meilleur grimpeur, qui certes est un très beau maillot, mais quand on passe tous les jours de sa vie avec un maillot de sa vie cycliste, bien sûr, de sa année cycliste, avec un maillot de champion du monde ou un maillot jaune sur les épaules, je suis certain qu'il a été piqué au vif.
Bien sûr.
Et je suis absolument certain que si je prends l'exemple de Ganna, ça pourrait en être un autre. Et là, je vais rejoindre Madio dans l'orgueil. C'est ce quart de roue qui fait qu'il veut faire voir qui est le patron. Et ce quart de roue, il ne l'aurait pas mis à l'avant si ça avait été un autre Tellingham. Voilà un petit peu le ressenti que j'ai depuis trois jours sur cette épreuve.
Il le déteste, donc pas mieux.
Pardon.
Non, je dis déteste Vingegaard profondément, donc moi je suis archi d'accord avec ça aussi.
Je le déteste pas, il me laisse tout à fait sensible. Moi je parle de moi là.
Non, moi je trouve justement qu'il a beaucoup de sensibilité, Vingegaard, c'est encore autre chose.
Mais
que Pogacar ne peut pas le voir en peinture parce qu'il l'a battu. Voilà, c'est le seul qui l'a vraiment battu deux fois sur deux grands tours et qu'il ne peut pas se le voir. Et que quand il peut l'humilier, comme il fait lors de la deuxième étape, il l'humilie. Voilà, donc il y en a. Beaucoup trouvent ça ici sur ce plateau, mais moi je trouve pas ça génial.
Là où je te rejoins, Louis, c'est également Vincent en parlait, la déclaration de Groschartner. Avant le Tour de France, il n'avait ciblé les UAE qu'une étape sur cette première semaine. C'est probablement le scénario du contre-la-montre par équipe qui l'a vexé, qui lui a parlé de ce quart de roue, comme le dit Marc Madio. Et Louis, messieurs, vous m'avez donné une idée, Louis. C'est le top 3. Est-ce que c'est ton top 3 de tes coureurs préférés dans l'histoire, Hino, Merckx et Pogacar?
Dans l'histoire, c'est le top 3 je les mets quasiment à égalité. Il manque peut-être un record de l'heure à Hino, mais Merckx, Hino, il en manquera un à Pogacar, même si c'est moins prisé maintenant, mais Merckx, Hino et Pogacar, c'est le top 3 des meilleurs coureurs qu'il y ait jamais eu.
Alors Tanguy, je vais demander à Tanguy Turgis, directeur de la groupe AMFDJ United, c'est quoi, alors pas forcément les plus grands, parce que ça dépend aussi beaucoup des générations, moi j'ai pas vu courir par exemple Hino, je vois beaucoup Pogacar gagner.
Moi je l'ai vu.
Tanguy,
j'ai vu Merckx, j'ai vu Hino, je vois Pogacar, et j'en ai vu 3 de très grands.
Tanguy, toi, ton top 3 à toi, d'un point de vue émotionnel, c'est quoi ton panthéon? Parce qu'évidemment, j'imagine aussi quand t'es gamin, t'as été coureur pro, il y avait des posters dans la chambre. C'était qui tes idoles?
Je l'ai dit à la première émission, moi, je vais faire plusieurs classements. Le coureur, moi, c'était Thomas Vauclair que j'avais en poster, clairement.
L'inspiration, c'est Thomas Vauclair?
Voilà, ça, oui. Après, dire qu'il fait partie du panthéon des trois coureurs.
Ton panthéon, c'est le tien.
Le mien.
Le tien, ouais.
Ouais, donc, du coup, je pense qu'il y a Thomas Vauclair, dans ce cas-là, ceux qui ont un gros impact pour moi. Philippe Gilbert.
Ok.
Et là, récemment, je l'avais redit aussi, mais Wout van Aert. Et pour moi, Wout van Aert, là, on parlait de sensibilité. Enfin, ce coureur-là, c'est quelqu'un qui te.
T'avais les poils lors de la victoire à Montmartre, là, quand il lâche Tadej Pogacar.
Surtout Roubaix.
Ouais, surtout Roubaix encore
mais
plus
en fait,
pour toi.
Ce que j'aime beaucoup, en fait, avec Wout van Aert, c'est quand tu vois toutes les galères. Tu vois que c'est un champion, la persévérance, et en fait, tu te mets à vouloir vraiment qu'il se mette à gagner.
C'est vrai, ouais.
Et après aussi, à titre un peu personnel, pour le coup, c'est un coureur qui est hyper humain. Quand mon frère gagne sur l'étape du Tour, c'est l'un des premiers à venir lui dire félicitations, parce qu'il sait quel point c'est dur.
Les
Christophe Laporte, il donne beaucoup de reconnaissance à ces coureurs-là. Et Valentin Madouas, il sait ce que c'est le cycliste, il sait que c'est dur. Et je trouve qu'il fait partie des champions qui sont les plus humains, les plus accessibles, et pour moi, ça, un champion, ça doit être aussi dans le comportement. Et c'est pour ça que moi, Wout van Aert, j'aime beaucoup.
Vincent, même question, ton top 3, ton petit panthéon.
C'est une question qui est vraiment ultra dure. Là où je vais rejoindre Louis, quand Merckx et Hino sont interviewés sur Pogacar, leur regard, on voit que c'est leur petit, quoi.
C'est la race des seigneurs.
Et des fois, il y a eu des générations entières où, quand on leur posait des questions sur les champions actuels, où ils étaient un peu blasés, ils bottaient un peu en touche, surtout Hino d'ailleurs, et ils se voient complètement en Tadej. Donc, je pense que si tu vas sur le panthéon des plus grands cyclistes de tous les temps, je pense que Louis.
Mais c'est ta sensibilité? Toi, c'est ton panthéon?
Il a dit ton panthéon.
Ton panthéon. Panthéon. Sinon, après, on sera tous d'accord, à mon avis, quasiment sur Merckx, Anquetil et Pogacar.
Oui, après, c'est en fonction des aspirations de chacun. Moi, j'ai un immense fan de Nasser Bouhanni.
Nasser Bouhanni, c'est très bien.
Un des mecs qui m'a donné le plus.
Donc, on a Bouhanni dans le tien, dans tes émotions, on met Nasser Bouhanni, l'ancien sprinter, notamment de la Cofidis.
Ouais, Vauclair.
Vauclair.
Ouais, c'est compliqué de passer à côté. Et après, quand j'étais gamin, Eric Boyer, ouais, j'aimais bien Eric Boyer.
Plus rare. Ludo, ton top 3 ?
Ouais, alors pareil, j'irai pas sur les champions parce que bon, on sera tous d'accord, mais je l'ai déjà dit en tout début de d'émission, Virenc.
On est quand même sur un champion.
Cette fois, il y a poids.
Je m'attendais. Je peux pas dire de nom. Le premier nom qui m'est venu est pas bon. Vas-y, Ludo.
Contador.
Oui, sûr. Bah attends, tu es champion de Virenc, Contador.
C'est pas Merckx, ils ont pas gagné 5 fois, voilà. Et puis un coureur que j'ai aimé profondément, on s'est souvent moqué de moi ici, c'est Bardet, moi.
Oui, bien sûr.
De
trois grands champions.
Voilà, donc et puis Pinot, mais voilà, c'est vraiment des quoi, pas Jérôme, même si je l'adore.
Il nous avait dit que Pedersen gagnerait pas aujourd'hui.
Mais vous voyez, finalement, on ressort des noms de coureurs qui nous font vibrer, qui nous vendent quelque chose, parce que des coureurs magnifiques, il y en a partout. Hein. Peter Sagan, on l'a pas cité.
Ouais,
il est quand même trois fois champion du monde de suite. Enfin, il y a plein de coureurs qui ont fait des performances exceptionnelles. Et là, dans notre panthéon à nous,
Je mets Pantani, mais parce que c'est l'âge où je découvre un peu le vélo. On est en 90, enfin, on est en 98. Moi, c'est l'âge où je découvre le vélo. 97, Ulrich chez mon panthéon. 98, c'est Pantani. Et après, plus récemment, c'est aussi Julien Alaphilippe parce que les émotions d'Imola, j'ai encore Imola, le doublé championnat du monde.
J'en rêvais d'un Français champion du monde. Moi, j'en rêvais.
Et la manière, Imola, quand il fait péter Hirschi, quand il fait péter Kwiatkowski, quand il y a Van Aert qui roule derrière sur le circuit d'Imola, on réalise que cette fois ça va arriver. Et le doublé en Belgique, où honnêtement on se dit il n'est pas fait pour lui, ce circuit, et t'as Valentin Madouas qui est exceptionnel, on a envie de les revoir. Alors Julien Alaphilippe, l'âge aussi fait que évidemment je pense malheureusement que les meilleures années sont évidemment derrière lui. Valentin Madouas, quelle course il nous avait également réalisé, Valentin, bien sûr.
Cette équipe là ce jour là magnifique. Et ils n'ont même pas forcément trop respecté les consignes. La seule consigne qu'ils ont respectée, c'est qu'il fallait commencer la course très très tôt. Et pour moi, on va pas en reparler de cette course-là, mais pour moi, ils ont gagné aussi sur une grosse erreur de la Belgique qui n'ont pas du tout neutralisé ces attaques et qui sont rentrés complètement dans le jeu des Français.
Mais tu vois, c'est dingue parce qu'on parlait d'émotion, c'est ça, le sport simplement. On se souvient parfaitement de cette course-là, des erreurs tactiques. Moi, je me souviens du jet de bière sur Julien Alaphilippe, alors que je me souviens moins de l'étape d'il y a trois jours, peut-être même du Tour de France. C'est tout le sport, c'est pour ça qu'on est là, c'est simplement les émotions. On a Mathis qui est avec nous, il a fait le 32-16 touche 9 pour participer à Roue Libre, la libre antenne. Mathis, tu voulais revenir sur l'étape du jour, je crois ?
Bonsoir. Oui,
salut Mathis.
Salut Mathis.
Donc on a eu une belle étape, une belle échappée aujourd'hui. Allo ?
Ouais, oui, vas-y.
On
t'écoute.
Oui. Personnellement, j'ai trouvé que la Lidl Trek a géré parfaitement cette étape. Ça a été une sacrée étape. Movistar qui a tenté quelques trucs. Et je pense sincèrement, cette victoire de Mats Pedersen est vraiment entièrement méritée. Et franchement, sur l'étape, je la mets vraiment pour l'instant la meilleure étape du Tour.
Parce qu'il y avait du suspense aussi, t'as raison. T'as douté un moment, moi je t'avoue, derrière mon écran, j'ai douté. Je disais à Vacek, roule avec Tratnik. Est-ce que toi, t'étais serein pour Mats Pedersen ?
Personnellement, en fait, si les attaques de Castrillo aurait été plus efficace avec plus de punch, j'aurais un peu plus douté, mais j'ai pas vraiment douté. Ce que je craignais, c'était vraiment que Kevin Vauclair fasse le coup du kilomètre, mais malheureusement, il l'a pas fait.
Ouais, il était. Après, c'est aussi toute la force de Quinn Simons. Moi, c'est ça qui m'a bluffé chez la Lidl. Mais c'est toujours pareil. On parle de justesse tactique quand on est plus fort. Ils ont la lucidité, Tanguy. Ça, c'était très très bien joué de dire à Vacek, écoute, tu t'occupes de Pedersen, tu roules, et Simons, tu gardes un œil sur Frigo et Vauclin. Eux, ils doivent pas bouger.
Et c'est même Vacek, c'est même pas occupé de Pedersen à mes yeux.
Il a
neutralisé les deux courants de Movistar.
Mais comme quoi Vauclin fait peur aussi parce que.
Oui. Ouais,
bien sûr.
Mais par contre, là où ils se sont rendus compte, c'est intéressant de voir comment on a adapté la stratégie sur la fin. C'est-à-dire qu'il y a Frigo qui a tenté une attaque, Simon a été récupéré assez facilement, Kevin Vauclin s'est dit « Ok, ça ne sert à rien d'attaquer, je vais essayer de la faire au sprint parce que de toute façon, je vais juste perdre une cartouche qui va me manquer pour le sprint. » Ils étaient impériaux. Il y avait pas d'autre... pour moi, on aurait pu faire d'autres attaques, un peu plus de punch. Bon, ils se seraient alliés à deux pour rouler, du coup, avec potentiellement encore une OX et EF qui auraient roulé pour le général. Donc, non, il y avait... Pour moi, il n'y avait rien à faire. Une fois que ça avait basculé à 35 km de l'arrivée, il n'y avait plus rien à faire.
Mathis, tu t'attends. Vas-y Vincent.
Je disais, le seul qui aurait pu être éventuellement un peu emmerdant au sprint, c'était Matthews. Et pareil, il le largue exactement au bon moment. Quoi.
Franchement, pour moi, Matthews, maintenant, sur des sprints plats, pour moi, il n'a plus le niveau. Sur des sprints avec du pourcentage, je suis d'accord. Mais sur un sprint plat, je pense que je suis même pas sûr qu'il batte De Bruyne.
Non, je suis d'accord. Mais il aurait fait deux. Mais maintenant, si tu prends les derniers sprints plats de Pedersen. Comme on le disait en début d'émission, il a pu gagner depuis l'année dernière, depuis la Vuelta.
Non, mais alors là, Vincent, t'as vu un peu le sprint qu'il fait.
Oui, ah oui, non, mais là, oui, non, mais après,
c'est aussi face à Vauclin, face à De Bruyne qui sont des sprinteurs.
France, mais il aurait tapé Matthews, mais avant le sprint. On serait dit. Je pense que Matthews faisait deux. Il aurait peut-être eu un petit match.
D'ailleurs, ils ont roulé. On a vu les Lidl qui roulaient. Alors, évidemment, pour éviter les attaques, mais aussi pour éviter que ça revienne, parce qu'eux, ils faisaient le surnom. Mathis, concernant les Français, est-ce que tu restes un petit peu sur ta fin, sur ce début de tour ou sur cette étape en particulier? On a vu Romain Grégoire en difficulté. On a vu les Total pas forcément à l'avant. Louis, qui était avec nous, parlait de Barguil et Alaphilippe, dont il faudrait peut-être tourner la page. Qu'est-ce que t'en penses de nos Français, toi, sur ce début de tour?
Alors, moi, je pense que Romain Grégoire, on n'est encore que sur le début de tour, mais peut vraiment tenter des choses sur ce tour. Il a déjà... début de saison a été vraiment incroyable, et je pense vraiment qu'il peut vraiment tenter plusieurs trucs sur d'autres étapes. Alors, pas une étape comme demain, ni après-demain, mais sincèrement, il y a encore des choses à faire. Après, d'autres coureurs en soi, il y avait Alexandre Delettre aujourd'hui qui était aussi en échappée, mais qui s'est fait larguer. Julien Alaphilippe, personnellement, moi je pense qu'il faut tourner la page. L'année dernière, ça a été un peu une belle victoire de fin d'avoir gagné c'était la classique de Québec ou de Montréal, je ne me rappelle plus.
Oui, je t'avoue que j'ai aussi un problème. Moi, je dis au Canada. Tu dis fais comme moi. C'est comme le maillot jaune, tu ne dis pas son prénom si tu as un doute. Pour les classiques au Québec, tu dis que c'était au Canada. Sa belle victoire au Canada. Petite astuce.
Mais voilà. Après, franchement, moi, je pense qu'il y a encore des choses à faire, comme Lenny Martinez aussi, qui pourrait tenter d'échapper. Moi, je pense qu'on a des Français de plus en plus performants. Ça faisait quelques années, on avait un peu de vide, je trouve. Et là, on a des jeunes qui montent en puissance et je trouve ça devient vraiment intéressant comme des courses sur le Tour de France.
Je crois que tu ne m'as pas cité Paul Sexas dans les chances françaises. Je me trompe?
Alors, je n'ai pas cité Paul Sexas parce que je pense qu'il va viser le général et puis je pense pas qu'il va perdre énormément de temps, donc il va peut-être pas non plus. Ils ne vont pas le laisser, pour moi, aller en échapper. Et je ne pense pas qu'il gagnera d'étape s'il reste avec Pogacar ou Jonas Vingegaard.
Très bien. Merci Mathis d'avoir été avec nous. N'hésite pas à nous rappeler évidemment pour participer à Roue Libre, la libre antenne. Je suis désolé, on te laisse parce qu'on a Hugues également. Vous êtes très nombreux à nous appeler, ça nous fait très plaisir. N'hésitez pas évidemment à débriefer avec nous. Hugues, bonjour Hugues, tu voulais aussi réagir sur l'étape?
Bien sûr, oui. Alors, ce qui m'a aidé, donc on a vu la victoire de Pedersen qui a quand même failli sauter dans le col de Montségur, qui était quand même en difficulté, et qui s'est rattrapé. Puis c'est vraiment un grand champion, puisqu'il a déjà gagné les étapes sur les trois tours.
Sa douzième victoire, là.
Douzième. Donc vraiment un grand champion. Puis ce qui m'étonne aussi, c'est l'écart au général, parce qu'il y a quand même près de 8 minutes sur les grands leaders. Donc je ne sais pas si ça va animer la course ou quoi. On ne sait pas.
Tu penses que, alors, UAE, évidemment, ils s'en fichent, évidemment, ils ont tellement de marge. Tu t'attendais peut-être à voir des candidats pour, je ne sais pas, le top 5, le top 10, rouler un petit peu pour essayer de réduire cet écart ou c'est trop tôt?
Je pensais, mais après, il faut voir que la course était sous des conditions de canicule vraiment très difficiles. Et puis ce groupe de plus de 30 coureurs qui est parti, donc ils ont été un peu irrésistibles jusqu'à la dernière ascension, il y a eu l'écrémage. Voilà.
Vincent, justement, ça m'intéresse, parce que Mats Pedersen, on dit souvent, il est très très bon dans les conditions mauvaises. Quand il y a du vent, quand il y a de la pluie, on se souvient des championnats du monde, Van Der Poel s'était garé, Trentin était avec lui, s'était garé également, et lui, il avait résisté, c'est un Danois très costaud quand il pleut. Souvent, les Uno X ont dit pareil, d'ailleurs, de ces coureurs. Là, il faisait 40 degrés. Ouais, il n'a pas de point faible, Mats Pedersen?
Non, ça c'est un vrai sujet. Alors, tu as des coureurs un peu comme Carapaz qui sont forts dans les conditions extrêmes, c'est-à-dire très froid ou très chaud. Tanguy le sait mieux que moi. Maintenant, bah, comme on court de plus en plus dans des conditions caniculaires, il y a aussi beaucoup d'entraînements spécifiques dans la chaleur. Maintenant, ce qui est intéressant de voir, Pogacar n'aimait pas la chaleur hein, au début de sa carrière. On voit qu'il a énormément travaillé là-dessus.
Tim Wellens aussi avait des gros problèmes.
Ouais, bah, lui, c'était aussi des allergies. Enfin, voilà, ouais. Dès qu'il y avait des coups de chaud. Alors, les coureurs de base qui n'aiment pas la chaleur, moi, ce que j'ai remarqué, c'est le changement de température. Tu vois, tu prends 10-15 degrés d'un coup, Godu typiquement, voilà, un Godu Prime, tu prends des degrés, Remco aussi, il aime pas, voilà. Mais après, le corps s'habitue, après ça va, c'est un petit peu, voilà, moi ce que j'ai noté. Maintenant, ce que j'aimerais savoir sur tout, c'est, et je pense que c'est peut-être une donnée encore que les coureurs n'ont pas, c'est quand tu t'entraînes comme ça de manière caniculaire, hein, Vingegaard a fait des entraînements à 39 degrés pour se préparer pour le Tour de France, tu vas gagner dans la chaleur, mais quand on revient dans des conditions dégueulasses, est-ce que tu vois, tes curseurs rebaissent ? Ça, c'est.
C'est-à-dire quand il fait vraiment froid, tu supportes.
Ouais, voilà, parce que tu t'es beaucoup.
Est-ce que c'est des vases communicants
En termes physiques, il y a des effets semblables à l'altitude. Donc tu restes quand même plus performant. Après, est-ce que tu supportes moins le froid parce que tu fais tout le temps de la chaleur ?
Oui, mais là, on n'est pas sur le Giro. Tu n'auras pas des températures qui vont descendre trop basses. Pas...
Oui. Non, là, il va faire chaud tout le mois.
Voilà. Maintenant, 30 degrés en juillet en France, c'est très peu. Il fait très froid. Sur Mats... On se les gèle à 30 degrés maintenant en juillet en France.
Pour revenir sur Mats Pedersen, il y a eu ce gros changement de l'acclimatation à la chaleur qu'on a parlé aussi il y a plusieurs jours. Et en plus de ça, Mats Pedersen était quelqu'un qui n'aimait pas trop, alors peut-être que ça a changé avec le temps, mais qui n'aimait pas trop les stages en altitude.
D'accord.
Donc, il faisait vraiment partie des premiers coureurs à accentuer beaucoup l'acclimatation chaleur pour avoir cet effet semblable dont je parlais, pour éviter de partir un mois en altitude où il appréciait pas et où son corps réagissait pas forcément aussi bien que d'autres coureurs.
Hugues, pour toi, c'est plié pour le maillot vert avec Mats Pedersen. Il a pris une avance déjà très importante parce qu'on parle beaucoup de l'étape, mais le maillot vert, on en reparlera demain évidemment dans le prologue des voilà, midi. Tu penses qu'il a déjà pris une très grosse option?
Donc le maillot vert, je ne sais pas, au niveau comptable, je ne sais pas exactement si je peux donner des conclusions, mais bon, on a déjà la grosse étape demain, donc il y aura normalement une super explication entre les sprinteurs, Guillaume, Philipsen, voilà. Et donc le maillot vert, écoutez, on espère qu'il y aura des sprints, parce que c'est super de voir des sprints comme ça, notamment à Bordeaux, qui est une ville de sprint par excellence.
Merci à toi Hugues, n'hésite pas à nous rappeler hein, évidemment dans Roue Libre, la libre antenne, hein, c'est votre émission. Ludovic, demain c'est quoi le programme pour les coureurs? On parlait d'un sprint, c'est tout droit?
Ouais, demain, oui, pratiquement. Tu as 158 km 300, donc un peu plus court, Lannemezan, Pau. Donc voilà, on est arrivé souvent à Pau, on est dans le coin de Bruno Armirail. Et beaucoup de quelques petites. Alors là, c'est plus des côtes, mais non, là, c'est vraiment pour les sprinteurs. Il y aura un troisième cas de la côte de Balex, troisième catégorie. Mais sinon, et pour les points, ce sera dès le kilomètre 113. Donc, les sprinteurs vont être à la fête. C'est pour eux demain. Donc, je pense que ça va être très très dur de s'échapper, de créer l'échappée demain. Ça va être limite impossible.
C'est pour Dorian Godon demain, Tanguy?
Non, c'est pour Tim Merlier.
Ah, Tim Merlier, on a aussi un sprinteur à la FDJ. Alors, j'ai peur qu'il soit un petit peu esselé. C'est Clément Rousseau.
C'est Clément Rousseau.
Ça va être quoi l'objectif? Un top 10
aidé par quelques coureurs. Mais oui, un top 10, puis c'est réellement faisable. Hein. Les qualités de Clément, il aime bien être dans la boule. Il a une très grande aisance pour pouvoir frotter et faire sa place. Donc oui, c'est clair, un sprint à côté de Philipsen, Merlier, bon. Il faut être aussi un peu réaliste, même si dans un sprint, tout est possible. Mais aller chercher un top 10, un top 5, selon comment la boule se crée, tout est possible. Pour ça, d'ailleurs, je reviens sur le tout premier appel qu'ils ont dit pour Søren Rescholl.
Oui.
Il peut gagner. Hein.
Tu crois, Søren Rescholl?
Il a gagné l'an dernier. Il a gagné déjà les courses World Tour devant des Philipsen, devant des Merlier. En termes de proportion, sur 10 sprints, ils vont en perdre peut-être 9, contrairement à ces coureurs-là. Mais il y a plus de probabilités que lui, il gagne. Là, en fait, tout à l'heure, dans le premier AP, il a donné le même pronostic que je donne pour un Clément Rousseau, pour un Rescholl. Il est quand même au-dessus, quand même, à mes yeux.
Est-ce que Rescholl, c'est quand même pas plus des sprints fatigués pour moi? C'est un peu comme Pedersen. C'est pas un sprinter, c'est un classic man qui va vite.
Mais c'est un sprinter.
Après, il n'y a pas une grande différence entre un sprinter et un classic man qui va vite.
Oui,
c'est une nuance.
Pierre-Yves Leroux est avec nous avant l'after tour. Pierre-Yves, j'imagine que tu t'es régalé comme nous devant l'étape du jour.
Salut à toute l'équipe de Roule Libre. Ouais, on s'est régalé, évidemment. Mais peut-être que contrairement à vous, on a souffert aussi avec les coureurs parce qu'il fait très, très chaud sur la route du Tour. Et ça va vraiment être un élément très, très important pour les coureurs, évidemment, pour la course en général. Il y a quelques petites inquiétudes, on aura l'occasion d'en parler un peu partout. Voilà, il fait vraiment chaud et ça peut avoir des conséquences.
Oui, on a eu un gros coup de chaud, nous d'ailleurs, dans notre émission Le Prologue de midi à 14h. Jérôme Pinot nous avait dit, messieurs, Mats Pedersen ne gagnera pas, n'hésite pas, hein, si tu l'as avec toi,
il est à côté de moi.
À lui mettre une petite pièce de la part de notre équipe.
T'inquiète pas, il a eu un coup de chaud toute la journée, il va nous raconter ça parce qu'il était sur la moto. Là aussi, ça a été très très dur parce qu'avec un goudron qui est à hauteur de 60 degrés, bah forcément c'est très compliqué, même pour les suiveurs, pas que pour les coureurs, et ça sera intéressant d'ailleurs d'avoir son avis. Je pense qu'il sera meilleur là que sur les pronostics.
Merci Tanguy Turgis, Vincent Prévost, Ludovic Duchesne. Salut. Tout de suite c'est la After Tour, merci aussi à Cyprien Bétou et à Kenny pour la prod et la réal. Merci l'équipe.
RMC 100% route, roue libre.